up to rise. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, you run to the left. Doesn't work me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas.
C'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos podcasts.
Bonjour à tous. Depuis quelques années maintenant, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien et pour certains, c'est même devenu leur métier. À l'image de l'Orléanaise Clément Salaire, influenceuse mode, beauté et lifestyle, qui compte aujourd'hui près de 120 000 abonnés sur Instagram. Bien loin du business juteux et très souvent indigeste développé par les stars de télé-réalité, Clémence, elle, noue des relations particulières avec les marques à la renommée parfois mondiale. Des marques qui ont choisi de faire appel à des créateurs de contenu pour assurer leur présence sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi et quel est leur intérêt et comment cela fonctionne-t-il? Clément Salaire a accepté de répondre à nos questions. Rencontre.
Je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans, je suis orléanaise et je suis maman d'un petit garçon. J'ai lancé tout d'abord un blog, quand c'était la folie des blogs en 2010. Donc ça fait un petit moment déjà. J'étais au lycée, j'adorais écrire. Ma matière préférée, c'était le français. Et j'adorais la mode, j'adorais la beauté. Et je me suis dit, il faut que je trouve une plateforme pour écrire ce qui me fait kiffer, quoi. Et du coup, j'ai lancé mon blog. Et à partir de là, je pouvais m'exprimer, je pouvais parler mode, beauté, lifestyle, etc. Et je me suis dit, pour attraper les gens, j'ai décidé d'interviewer des célébrités. J'ai pas de formation de journaliste à ce moment-là, je ne suis personne, etc. Mais le format blog intéresse vachement les gens, et donc on me dit oui. Donc j'ai fait des super interviews, Lou Doyon au Théâtre d'Orléans, incroyable,
okay.
vraie interview de grande. David Beckham, alors là c'était
waouh,
c'était vraiment cool, et des personnalités de la mode, etc. Et ensuite Instagram est arrivé, et à partir de là, bah, ma communauté du blog m'a suivi sur Insta, et c'est grâce à ça que j'ai pu du coup construire une communauté et grandir via ce réseau social.
C'était le blog fonctionnait déjà bien avant ?
Ouais, super bien. Franchement, c'était trop cool. Les gens étaient hyper curieux, attendaient mes articles, c'était vraiment sympa. Et toute la folie Facebook, Twitter et surtout Instagram a complètement changé la donne, et aussi pour énormément de médias, comme je pense à la presse, etc. Et les réseaux sociaux ont pris une grosse place, et on a vite compris que c'était un vrai moyen de communication à travers des photos, etc. Donc voilà, ça a commencé à suffire aux gens, en fait, ce type de format. Donc il faut évoluer aussi avec son temps, même si la passion d'écrire était encore là. Et voilà.
Pour comprendre le fonctionnement d'Instagram aujourd'hui, comment justement fonctionne ton travail ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu proposes ? Et surtout, comment ça marche ?
Instagram, donc déjà on est sur un réseau social, tout le monde a accès à Instagram, mais on peut vivre de cette plateforme. Donc moi, mon travail aujourd'hui, c'est de mettre en lumière des marques, des produits, de la beauté, de la mode, des expériences culinaires, des expériences hôtelières via mes propres photos. Donc voilà, il y a un vrai travail du coup de
création.
De création, c'est ça, voilà. Prendre des photos, bah ça prend aussi. On prend pas des photos n'importe comment. Donc on s'équipe. Il y a un vrai travail même avec la lumière, etc. Vraiment, le but, c'est de rendre l'objet encore plus beau qu'il ne l'est déjà. Donc il y a pas mal de boulot derrière. Il y a un vrai travail en amont avec les marques. Donc on reçoit des briefs, ils nous disent voilà ce qu'ils veulent exactement, et nous on doit reproduire le truc de manière parfaite, en fait. Et c'est très challengeant au quotidien.
C'est un fonctionnement d'agence de communication.
Clairement. J'ai un brief, la marque me contacte, j'ai un brief à respecter avec des deadlines. Donc voilà, je dois envoyer ma photo, ma légende ou ma vidéo, parce que maintenant il y a le format vidéo qui marche énormément bien, avant telle date. Et faut que tout soit nickel pour que je puisse poster.
Comment ça se passe justement, le lien avec les marques ? Est-ce qu'elles te contactent ? Tu les contactes ? Comment ça fonctionne ?
Alors, il y a certains créateurs de contenu qui vont aller au culot contacter des marques parce que bah, ils ont envie de travailler avec telle marque. Ils se disent, bah, moi j'ai un super compte Instagram, donc why not ? Et il y a les personnes, moi je suis plus partie de ces personnes-là, qui attendent que les marques viennent. Parce que j'ai toujours peur, enfin j'ai pas envie de déranger ou quoi, et du coup je préfère qu'on vienne vers moi parce que voilà, la marque estime que je correspond à ce qu'elle veut, et elles viennent vers moi, voilà, en me disant voilà, on aime bien ton profil, on aime bien ton univers, voilà ce qu'on sort comme produit et on pense que ça correspond complètement à ce que tu es. Et du coup après, bah je regarde, j'accepte ou pas, parce que des fois on dit non parce que ça nous correspond pas forcément. Il faut savoir dire non, parce qu'après on est très très vite sous l'eau. Et voilà.
C'est justement ça, pour qu'on se rende compte, ça peut être combien de propositions par jour ou par semaine ou par mois, je sais pas.
Alors c'est complètement différent tous les jours.
Hors Noël, parce que j'imagine Noël, c'est la folie.
Hors Black Friday, hors Noël, tous ces trucs-là, oui. Clairement, en moyenne, je dirais, on peut aller jusqu'à 2 propositions par jour.
Ah oui, d'accord. Ok. Toutes sérieuses ?
Bah, il y en a qui sont moins sérieuses. Hein. Il y a des marques, c'est clairement du dropshipping, et ça, on n'y va pas du tout, parce que bah, ça peut être même dangereux pour le consommateur, et puis même, pour son image, c'est vraiment pas bon. Mais oui, clairement, aujourd'hui, les marques ont très très bien compris ce business qui est juste incroyable, et préfèrent limite faire de l'influence que faire de la télé.
Est-ce qu'aujourd'hui, comparé à il y a quelques années, ça marche encore plus,
oui.
Ou est-ce qu'on sent qu'il y a un ralentissement ? Parce que là, ça fait quelques années maintenant qu'on parle du métier de l'influence. Est-ce que vous êtes toujours autant happé par les marques, les choses comme ça ?
Moi, je trouve que oui.
Ouais, okay.
Ouais, franchement, je trouve que oui. Comme je disais tout à l'heure, vraiment, les marques, elles se disent que Instagram, c'est une mine d'or pour elles parce qu'on va toucher le cœur de cible tout de suite, en fait. Une marque de sport va tout de suite aller vers un influenceur sportif et va tout de suite trouver la personne qui va parler de ses produits. Donc c'est tout bénef, clairement. Après, voilà, il y a d'autres réseaux sociaux qui arrivent, enfin qui sont déjà là, bien implantés, comme TikTok. Et là, il y a une grosse comparaison avec Insta. Mais on est sur autre chose, on est sur une autre génération. Donc pareil, il faut vivre avec son temps. Mais franchement, je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail sur la partie Insta.
Sans chiffrer, est-ce que tu sais si c'est moins cher, entre guillemets, de faire appel à des influenceurs que de faire appel à une grande chaîne de télé, par exemple, pour faire de la pub?
Ouais. Okay. Moi, j'ai travaillé dans le marketing d'influence avant d'être 100% sur Insta. Du coup, j'ai pu assister au backstage de tout ça, de voir quel budget les marques pouvaient mettre pour une campagne avec X influenceurs. On est clairement en dessous d'un spot publicitaire.
D'accord.
Il y a des influenceurs qui sont très, très, très puissants, où ça chiffre forcément beaucoup, parce que forcément, ils font extrêmement vendre. Donc là, forcément, on peut être un peu choqué par rapport au prix. Et voilà, mais le prix d'une pub juste avant le 20h, c'est beaucoup plus cher.
Quel est le point négatif dans ce travail? L'exposition sur les réseaux?
Bah oui, il y a le côté surexposition de sa vie. Après, clairement, il faut le dire, je montre 5% de ma vie. Enfin, voilà. Instagram, c'est pas la vraie vie, et je suis trop contente de pouvoir le dire à la radio. Instagram n'est pas la vraie vie. Il faut faire déculpabiliser les gens qui se comparent à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Clairement, c'est pas la vraie vie du tout. Et les points négatifs, c'est ça, c'est quand on fait ce travail, ben on va avoir toujours cette pression de l'image. Est-ce que je vais être assez bien? Est-ce que mes photos vont être mieux que celles de ma copine qui est sur Insta aussi? Oh, elle, ça marche peut-être un peu mieux. En fait, on est toujours dans la comparaison et ça peut faire mal. Mais après, voilà, faut être bien entouré et se raisonner. Moi, c'est pour ça, moi, j'ai mon mari qui est là, j'ai mon agent, j'ai des gens qui me disent tout le temps, arrête un peu, des fois, tu te montes la tête pour rien. Et voilà, et après, autre point négatif dans ce métier, c'est que le métier d'influenceur, entre guillemets, c'est perçu comme quelque chose de facile. C'est pas forcément pris au sérieux, mais franchement, derrière cette image, il y a tellement de boulot, il y a tellement de pression aussi qu'on s'inflige nous. Voilà.
S'il y avait un conseil, c'est pas un conseil, mais si en gros, si tu devais faire passer un message par rapport à tout ça, ce serait lequel?
Je l'ai dit juste avant, je crois, mais Instagram n'est pas la vraie vie, vraiment. N'importe quel réseau sociaux d'ailleurs, ce que vous voyez, voilà, c'est une toute petite partie de la vie des gens, et c'est surtout ce que les gens veulent montrer. Et après, vous pouvez bien sûr suivre des gens qui vous inspirent et qui vous donnent envie aussi de réaliser des choses, de voyager, de faire plein de choses. Mais ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça peut être dévastateur, clairement. Moi, je l'ai vu en travaillant dans le marketing d'influence. Je prenais des stagiaires de 3e. S'il n'y avait pas plus de 200 likes sous la photo, j'étais une mauvaise personne et ça m'a brisé le cœur. Je me dis, mais on en est là, quoi. Donc, c'est trop cool, les réseaux, ça nous permet de rêver un peu, de s'échapper, de rire parfois, parce qu'il y en a qui sont très forts là-dessus, d'apprendre aussi plein de choses. Il y a des gens qui sont trop bien calés, il y a des infographies trop cool sur les réseaux sociaux et tout, mais ne pas se monter la tête non plus, et voilà. Tout simplement.
Une dernière question à destination peut-être des jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui veulent faire quoi plus tard? Ils veulent devenir influenceurs. Est-ce que c'est... Moi, c'est un sentiment personnel, c'est que j'ai l'impression que toutes celles qui ont explosé justement dans ce milieu-là, qui arrivent à en vivre, elles c'était pas volontaire au départ.
Ouais.
Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement décider plus tard, je serai influenceur?
Je crois pas. Franchement, je crois pas. Je pense que si quelqu'un a envie de faire ce métier, il peut se donner les moyens à fond. Mais je ne peux pas dire à 100% qu'il va réussir. En fait, je pense que il y a aussi une part de chance aussi, je pense aussi. Parce qu'il suffit de poster une vidéo et d'un seul coup d'avoir le lendemain matin 1 million de vues. Et là, waouh, tout commence. Enfin, il y a des études, il y a des formations maintenant pour essayer de faire au mieux, d'avoir un beau feed Insta, de pouvoir faire plein de trucs trop cool. Mais je pense que tout le monde ne peut pas faire ça. Et il y a une partie de chance quand même, faut le dire. Voilà, après, si la personne a vraiment envie de le faire, elle peut se donner les moyens, faire de jolies rencontres, faire des stages aussi dans le marketing d'influence, rencontrer des gens. Mais voilà, c'est quand même très fermé, mine de rien.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de la rédaction.
Bonjour à tous. La rédaction de 8FM a décidé de faire ses valises pour aller faire un petit tour sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Alors que l'on s'envole tout droit vers la période estivale, l'aéroport a fait en ce début du mois de mars un point sur son programme pour le printemps-été 2023. Pas moins de 13 nouvelles destinations sont annoncées. Simon Dréchel est le président du directoire de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.
Oui, absolument. On est en train de reconstruire le trafic sur l'aéroport de Bordeaux. Donc on réouvre des destinations et puis on a des destinations inédites également qui seront au programme. On voit qu'on a mis le paquet sur l'Allemagne avec une offre qui s'étoffe énormément, avec beaucoup de nouvelles villes sur l'Allemagne, avec des acteurs non seulement économiques mais du tourisme qui ont plébiscité cette destination. Donc c'est le gros volet de nos nouveautés, se situe notamment sur l'Allemagne. Après c'est tout le réseau qui se renforce et on a maintenant une centaine de destinations pour à disposition à l'aéroport de Bordeaux.
L'Allemagne avec entre autres Stuttgart pour les destinations inédites. Inédit aussi Paphos à Chypre et Eindhoven aux Pays-Bas. L'aéroport a aussi pour objectif de se focaliser sur les hubs, ces grands aéroports qui permettent de faire une connexion avec certaines destinations impossibles en direct depuis Bordeaux.
Alors on s'intéresse aux hubs parce que notre propre mission finalement c'est d'offrir de la connectivité. Et donc quand on se connecte à des hubs, c'est-à-dire plutôt des grands aéroports qui offrent beaucoup de vols et de la connectivité vers de nombreuses villes, on travaille finalement notre réseau de destinations aussi. Donc en se connectant à un autre aéroport, on offre beaucoup de destinations au territoire qui est le nôtre. Donc on a un relais de croissance qui est très important sur ce sujet-là. Et puis surtout, on dessert les besoins des entreprises et du loisir sur le territoire.
2023 sera aussi l'année de l'arrivée du tram A au pied du tarmac bordelais.
2023 sera officiellement l'entrée dans la multimodalité. Vous arriverez à l'aéroport de Bordeaux avec le tram, avec des moyens de bus à haut niveau de service, avec votre véhicule léger, les pistes cyclables sont opérationnelles. Donc on est vraiment un outil multimodal désormais. Et ça c'est important parce que ça fait partie de notre stratégie de desservir le territoire avec des moyens de transport très variés. Puis surtout c'est un moyen qui améliore nos bilans carbone aussi, c'est ce qu'on travaille désormais, donc c'est tout bonus.
Alors si les voyageurs sont de retour, le niveau d'avant Covid n'a pas été rattrapé. Le nombre de voyageurs comptabilisés avant la pandémie ne sera d'ailleurs pas atteint avant 2027. Mais la politique au sein de l'aéroport a aussi évolué sur l'après-Covid. L'idée n'est plus de faire du volume pour faire du volume. Les questions environnementales ont pris le pas sur cette question de volume.
À l'aéroport, on souhaite desservir un marché. Notre marché, c'est le territoire, c'est la métropole de Bordeaux, c'est la Gironde, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on met un point d'honneur à sélectionner nos marchés et à ouvrir des lignes à haute valeur ajoutée. Je pense que le monde change malgré tout. Alors c'est sûr que les voyageurs reviennent, c'est sûr qu'on est en train de reconstruire notre trafic. On sera, nous, en 2027 au trafic 2019, donc on est encore bien loin du trafic qu'on connaissait. Et donc on est assez vigilant, je pense que le monde change et qu'on reconstruit ce trafic un peu différemment de ce qu'on pouvait faire.
Et l'aéroport de Bordeaux-Mérignac s'est d'ailleurs doté d'une feuille de route pour décarboner son activité au sol.
Chaque nuit, on écoute ensemble les meilleurs titres du moment sur 8FM.
And I don't wanna believe that maybe this is the end. I know you're kind of a tease, but is this really pretend? Something tells me I'm wrong, but you I never can tell. The way you drag me along, the way I put you through hell. Tell me, am I insane? Is this where we belong? Is it pleasure or pain that we're still hanging on? Going out of my head, you know true love is dead. But what you said has got me hanging on. I can't help but walk through your landmines. 10 feet and I'm without you, is that so wrong? I can't help but walk through your landmines. I'm bleeding and all I need is a sign. I'm out here and I've been waiting so long. Oh, 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 you got me hanging on. Oh, 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 you got me hanging. And maybe I'm out of luck, or maybe all of it's bad. I'm not sure why we broke up, it was the best that I'd had. They say it's all for the best, I think the fate is a lie. I know my hair is a mess and you're a little bit high. Should I give it a chance? Is it ever enough? No more blood on our hands, no more fucking it up. Going out of my head, all the tears that I've bled. And what you said has got me hanging on. I can't help but walk through your landmines. 10 feet and now
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos chroniques.
Le gros plan de la rédac. Mobilité, comment réduire nos émissions. Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre. Épisode 3.
Repenser nos déplacements, quelles alternatives et à quel prix? On évoque certainement ici l'un des points les plus importants de notre transition énergétique dans le domaine des transports. Au-delà des avancées technologiques qui permettent, et on le verra dans un prochain épisode, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, doit-on plus globalement remettre en question nos déplacements? Doit-on revoir notre rapport à l'utilisation de notre véhicule? La question est centrale car elle implique un changement dans notre mode de consommation, voire notre mode de vie, dont l'impact sur le climat est non négligeable. On l'a déjà compris dans cette série sur les nouvelles mobilités, se tourner aujourd'hui vers un véhicule électrique restera, quoi qu'il arrive, une alternative moins polluante que son équivalent thermique. Tout d'abord parce que les batteries sont à ce jour mieux conçues. Et surtout, la question du recyclage n'est plus réellement un sujet, comme il pouvait l'être il y a encore quelques années. De nombreuses entreprises du secteur y travaillent, et on sait aujourd'hui, par exemple, réparer des batteries en fin de vie, ou encore tout simplement les réutiliser dans un domaine tout autre que le déplacement. L'autre point désormais convenu, c'est que les véhicules thermiques sont un désastre environnemental et que malheureusement, le véhicule électrique n'est pas une solution parfaitement merveilleuse pour décarboner nos déplacements. Quoi qu'il arrive, notre modèle de transport est extrêmement polluant, mais est-ce une raison pour baisser les bras et finalement se dire « je vais polluer, dans tous les cas, pourquoi m'embêter ?» Cette finalité est tout à fait compréhensible, d'autant que les alternatives existantes aujourd'hui peuvent faire un petit peu peur d'un point de vue économique. Malgré tout, il existe une multitude de solutions toutes complémentaires. La seule chose, c'est qu'elles impliquent effectivement toutes de changer notre mode de consommation actuel. C'est ce qu'explique Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique.
Non, très clairement, il n'y a pas de solution miracle. Ça va être une transformation assez globale qu'il faut mener. La première manière de voir la transition énergétique des transports, c'est de se dire il faut qu'on change d'énergie, il faut qu'on sorte du pétrole pour passer à d'autres énergies. On a plusieurs options qui sont des options complémentaires. Aucune d'entre elles n'est parfaite. Elles ont toutes des impacts, des freins aussi à leur mise en œuvre. Les quatre grands types d'options qu'on a d'un point de vue énergétique, c'est tout d'abord l'électrique, dont on parle beaucoup, notamment pour la voiture, c'est ce qui va être le plus pertinent. On a aussi l'hydrogène, qui va être un complément à l'électrique. Il a certains défauts par rapport à l'électrique, notamment un coût plus important, notamment plus de besoins énergétiques pour réussir à produire l'hydrogène. Après, on a ensuite, en troisième option, on a également les biocarburants. Donc ça permet de garder le même type de véhicule qu'aujourd'hui au pétrole, mais de passer à des carburants produits à partir de biomasse, donc à partir de cultures, etc., ou à partir de résidus de cultures, tout ça. Et puis, il y a aussi le biogaz, qui va être un peu le même type de carburant que les biocarburants, donc à partir de biomasse aussi, mais ça va être sous forme gazeuse. Donc là, ça demande de changer les moteurs. C'est des moteurs qui consomment du gaz, mais du gaz biosourcé, entre guillemets, donc qu'on peut obtenir à partir de plantes ou de résidus de plantes, par exemple.
De nombreuses solutions pour décarboner le plus possible nos déplacements existent donc déjà et sont même pour la plupart déjà largement exploitées. La plus connue à ce jour est évidemment l'alternative du véhicule électrique. Elle devrait même s'imposer dans les années à venir puisque l'Union européenne a voté l'interdiction de vente de véhicules thermiques neufs d'ici 2035. Et surtout parce qu'elle permet, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire ou penser, de faire des économies. La preuve avec Vincent Larnicole de la Fédération française des associations d'utilisateurs de véhicules électriques. Lui possède une Peugeot Yon, une petite citadine électrique qu'il utilise quotidiennement, mais aussi un véhicule thermique pour des déplacements plus longs.
Maillon, ça me coûte quasiment rien, il n'y a pas d'entretien. L'électricité, même si ça augmente, ça coûte encore beaucoup moins cher que le pétrole. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles je suis passé à l'électrique. On a une voiture qu'on utilise au quotidien. Moi, ma petite citadine, c'est avec elle que je fais le plus de kilomètres. Parce que je suis plus souvent chez moi au boulot qu'en vacances. Donc effectivement, quand je suis en vacances, je vais utiliser ma thermique. Mais finalement, je fais moins de kilomètres avec ma thermique qu'avec ma petite électrique qui a un rayon d'action très limité. Et en termes d'économie, oui, c'est 2000 euros à peu près d'économie par an, quoi.
Christophe Debaune fait aussi partie de la fauve. Lui a décidé de se tourner vers un véhicule électrique plus gros et plus lourd. Mais le constat est le même. Le véhicule électrique est rentable économiquement et permet de faire des trajets qu'on pourrait penser impossibles.
je me suis rabattu sur une berline de taille correcte, on va dire. Donc forcément, quand on part en vacances, elle est un peu plus remplie. Mais en tout cas, le constat est là, c'est qu'elle me permet aujourd'hui de voyager comme je voyageais avant avec la thermique. Je traverse la France, je vais même un peu plus loin. Je suis même allé jusqu'en Allemagne de l'Est, avec sa semaine de l'Est, avec sur un week-end. Pourtant, on m'a dit non, tu vas mettre une semaine, etc., à faire le voyage rien que pour y aller. Bah non, en un week-end, j'ai fait l'aller et le retour. Donc voilà, je me pose plus la question. Il faut partir, il faut aller à droite, à gauche, peu importe. Je prends ma voiture et je voyage comme avant finalement. Exception que on essaie de caler les pauses repas, etc., sur un endroit où il y a une borne de recharge rapide. Mais ça va être de moins en moins vrai, puisqu'en fait la plupart des stations d'autoroute se sont équipées, donc en fait dès qu'on s'arrêtera, quel que soit l'endroit, il y aura une borne de recharge. Donc effectivement aujourd'hui on s'arrête le temps de manger, ou même d'une pause technique simplement, on récupère 100-150 km, le temps de manger, on fait le plein complet. C'est régulier que je dis à ma femme et mes enfants, dépêchez-vous, la voiture est pleine, donc il faut y aller.
Un tel voyage en véhicule électrique est donc par la force des choses plus long et nécessite aussi des pauses très régulières.
Oui effectivement, donc là c'est un cas concret. Il y avait 1150 km aller, 1150 km retour. C'est entre 5 et 6 pauses sur chacun des trajets. En fait, ça va assez vite parce que, alors, la sécurité routière, vu qu'on s'arrête toutes les 2 heures, et ben effectivement, quand on s'arrête toutes les 2 heures, voire un petit peu moins, on se rend compte que le voyage est beaucoup plus agréable parce que moins fatigant. Pourtant, c'est vrai que je me forçais avant à pousser, et en fait non, c'est pas possible, et on se rend compte qu'on retrouve du plaisir à voyager comme ça. Niveau budget, sur une longue distance comme ça, faut compter à peu près 250 euros l'aller-retour, donc les 2300 km. Alors c'est un budget qui se rapproche du thermique pour ce cas-là. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tous les jours je recharge chez moi en fait à moins de 2 euros aux 100 km. Donc c'est aussi à prendre en compte dans le calcul. On lit beaucoup d'articles où l'électrique va devenir aussi cher que le thermique, mais on oublie en fait que la plupart des gens qui roulent en électrique recherchent chez eux à un tarif très intéressant.
La solution du véhicule électrique, même sur des trajets longs, semble donc plutôt viable, que ce soit quand on parle des conditions de conduite, de voyage et même d'un point de vue économique. Rentabilité que vient confirmer Aurélien Bigot, mais qu'il tient à nuancer, notamment sur le prix à l'achat du véhicule électrique.
Il y a besoin de soutien de l'État, il y a besoin de soutien des collectivités, que ce soit pour les bornes de recharge, pour faciliter via des aides à l'achat la conversion aussi du parc de véhicules vers des véhicules à la fois électriques et des véhicules plus sobres aussi, c'est une autre partie de la transition. Après, ce qu'il faut savoir sur le coût par exemple des véhicules électriques, c'est qu'aujourd'hui ils sont plus chers à l'achat, donc ça peut être un vrai défi de transition, et du coup c'est difficile pour une grande partie des ménages pour s'approvisionner sur le marché des véhicules neufs. Mais en plus, l'électrique est plus cher à l'achat, mais après il est beaucoup moins cher à l'usage. Donc dès aujourd'hui, acheter un véhicule électrique, ça nous assure sur l'ensemble de son cycle de vie. Un véhicule électrique d'une tonne aujourd'hui, ça va être de l'ordre de 20 000 euros à l'achat. Un véhicule électrique de 2 tonnes, ça va être de l'ordre de 50 000 euros.
Des véhicules rentables donc, mais dont le prix à l'achat peut en freiner plus d'un.
Oui, c'est clairement un investissement. Après, la grande question dans la transition, c'est aussi une question de réorienter les flux financiers ou les financements. Quelque part, de moins financer les infrastructures qui soutiennent des usages de la voiture, des usages du pétrole, etc. Et puis réorienter ces flux-là vers plutôt le vélo, les transports en commun, la mobilité électrique, le covoiturage, etc. Donc c'est aussi des flux à réorienter vers ce qui est le plus vertueux, en sachant qu'aujourd'hui on a encore beaucoup de financement public, par exemple pour construire des nouvelles routes, des nouvelles autoroutes, agrandir des aéroports, etc. Les financements qu'il y a pu avoir, les primes sur les carburants, etc. Mais ces choses-là, il faut soit les cibler vers les personnes qui ont le moins de moyens pour qu'elles puissent passer cette période de forte hausse du coût des carburants, c'est problématique de pouvoir d'achat, mais essayer de ne pas trop rendre dépendant finalement à la voiture thermique, etc., mais plutôt financer les alternatives pour faire en sorte qu'on fasse cette transition plutôt que subventionner des usages actuels qui sont pas forcément très favorables pour la transition. Donc c'est un gros enjeu aussi de réussir à réorienter ces flux financiers.
Parmi les les véhicules intéressants et abordables, on évoque souvent la Dacia Spring, véhicule pour lequel le cumul des aides gouvernementales peut aller jusqu'à 20 000 euros et qui offre une autonomie assez conséquente, même quand on vit dans des zones rurales où les bornes de recharge peuvent se faire plus rares, d'autant que le réseau est plutôt bien fourni en France, selon Christophe Debaune.
Il existe des outils qui permettent de voir où se situent les bornes, et bien souvent on est surpris de se dire ouais, je vais rien trouver là-bas, et ben en fait s'il y a des bornes, faut simplement savoir les trouver. Donc je sais pas s'il y a un coin en France qui est plus difficile qu'un autre. En tout cas, quand on s'éloigne un peu dans la campagne entre guillemets, bah souvent on habite en maison individuelle, donc on a le point de recharge chez soi. Et aujourd'hui, quand on a un véhicule qui peut faire, on parle de la Dacia Spring pour revenir à elle, qui est un véhicule abordable, on peut faire entre 200-250 km. Donc quand on a un rayon d'action de 200-250 km, peu de gens font cette distance-là tous les jours. Même si c'est un aller-retour, bah on revient chez soi le soir et puis on la rebranche et puis le lendemain matin, elle est prête à repartir.
Mais à l'image de la Dacia Spring, peut-on vraiment continuer de concevoir nos déplacements grâce à des véhicules aussi lourds et dont l'autonomie est aussi conséquente? La question peut sembler bête. Aujourd'hui, on aime l'idée d'avoir un véhicule qui peut nous emmener loin et vite, même si la majorité de nos trajets sont des déplacements du quotidien et qui ne nécessitent donc pas des véhicules objectivement surdimensionnés. C'est d'ailleurs ce que dit Aurélien Bigot.
En fait, on peut pas penser exactement comme ça, penser voiture vraiment à tout faire, y compris des très longs trajets, mais plutôt, ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir des véhicules sobres, plus légers, qui n'ont pas trop d'autonomie au quotidien. Et pour les trajets à plus longue distance, eh bien, autant que possible, développer d'autres mobilités que la voiture, aussi typiquement développer davantage le train, développer davantage l'autocar, ou bien davantage covoiturer, ou avoir de l'autopartage, de la location de véhicules pour les quelques trajets à plus longue distance qu'on peut avoir dans l'année, afin de dimensionner plutôt des véhicules petits, légers, qui n'ont pas trop grosses batteries, ce qui limitera à la fois les impacts environnementaux, mais aussi le coût financier de ces véhicules électriques. Si on veut que beaucoup plus de personnes aient accès aux véhicules électriques, il faut que ce soit des véhicules plutôt plus légers, avec une batterie pas trop surdimensionnée.
Pour ce qui est du développement des réseaux de transport en commun, et notamment du train, encore faut-il permettre à quiconque de se rendre en gare ou de rejoindre un lieu depuis une gare. C'est pour ce type d'usage que Frédéric Morier veut développer son projet Avatar Mobilité. L'idée est de proposer des alternatives sobres en ayant recours à des batteries moins impactantes sur l'environnement.
Notre point de vue avec Avatar, c'est que finalement il est beaucoup plus simple et plus souple de développer des petits modules, des petites cellules qui ont un impact, une consommation équivalente ou moindre qu'un transport en commun, et que finalement en multipliant des petits véhicules comme les nôtres, à passagers équivalents et à kilomètres parcourus équivalents, si on est déjà mieux placé en termes de coûts et d'impact que ces bus à hydrogène ou équivalents, c'est pertinent. Mais l'idée n'est pas d'opposer les solutions, bien au contraire. C'est de dire, quand on veut se rendre dans une gare, ou qu'elle soit ferroviaire ou routière, eh bien comment on y va? Est-ce qu'on a des solutions de déplacement sobres, elles aussi? Et donc de proposer, par exemple, des véhicules qui permettent de faire les 10 derniers kilomètres ou les 10 premiers kilomètres pour rejoindre des transports en commun.
Les projets et les propositions ne manquent donc pas entre les véhicules électriques classiques et les projets alternatifs, comme le projet Avatar. Mais les gens sont-ils prêts à faire l'effort financier pour cette transition énergétique? Aurélien Bigot estime que oui, même si quelques efforts sont encore nécessaires.
Les gens sont prêts à faire des efforts à condition qu'ils soient partagés de manière juste, à condition d'avoir aussi des alternatives à disposition. Et c'est vrai que notamment dans les zones périurbaines, dans les zones rurales, aujourd'hui il y a trop peu d'alternatives qui sont mises à disposition. Et c'est aussi ça le gros enjeu de transition, c'est de faire en sorte de choisir quelles sont les bonnes solutions de mobilité selon les territoires, selon les personnes, selon les capacités que chacun peut avoir. Pour ces zones-là qui ont été trop peu soutenues dans les politiques publiques de mobilité, mais aussi proposer des alternatives aux véhicules thermiques qui dominent aujourd'hui largement.
Donc revoir nos déplacements, oui, mais pas à n'importe quel prix. Le gouvernement, avec les institutions, doit mettre la main à la poche et faire des propositions, car une transition a forcément un coût et elle ne pourra pas avoir lieu si tout le monde n'y a pas accès. Néanmoins, de nombreuses alternatives existent d'ores et déjà, avec parfois certaines aides déjà déployées. Notons aussi que la barrière de l'autonomie des véhicules électriques sur de longs trajets ne semble plus d'actualité, les constructeurs ayant les moyens aujourd'hui de développer des véhicules assez conséquents pour de plus longues distances, et surtout quand on prend en compte le développement important du réseau de bornes de recharge dans le pays. Voilà pour cette petite réflexion sur notre rapport au déplacement et sur les alternatives déjà existantes. Mais vous souhaitez peut-être en savoir un petit peu plus sur les nouvelles mobilités et les possibilités de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, rendez-vous sur notre site internet et sur notre application. Quant à moi, je vous dis à très vite dans un nouveau nouvel épisode de notre série.
Vous êtes au cœur de la nuit et on repart en musique sur 8FM.
Late night, you and I, post fight, it's my life. Last draw, there's a door, I'm all for, four, four. I watch you walk away, it's just another day, don't need you to stay.
La nuit, c'est le moment sur 8FM où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Le gros plan de la rédac, mobilité, comment réduire nos émissions. Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre, épisode 5.
Bioéthanol, GPL ou hydrogène, ces solutions sont-elles efficaces ? Vous l'aurez compris, tout au long de nos épisodes, la solution la plus intéressante à l'avenir est de sortir complètement du moteur thermique. Oui, mais voilà, la fin de vente de véhicules à moteur thermique est prévue en Europe en 2035, avec l'espoir d'une sortie totale après 2050. Alors, comment engager cette transition et surtout, quelles solutions proposer à court et moyen terme ? Parmi ces solutions, l'hydrogène, possible sauveur du moteur thermique. 6 cylindres, turbocompresseur à l'arrivée d'air, filtre à particules, d'apparence ordinaire, la puissance mécanique de ce moteur se fera à partir d'hydrogène propre. C'est la réaction explosive entre le dioxygène et le dihydrogène qui va permettre de créer cette énergie. Une technologie qui n'est pas encore maîtrisée et qui pourrait ne pas correspondre à toutes les attentes, selon le chercheur sur la transition énergétique des transports, Aurélien Bigot.
En effet, il y a des risques qui vont être un des défis du développement de l'hydrogène. La particule d'hydrogène est très fine, du coup il va y avoir des risques de fuite dans les réservoirs, etc. Donc voilà, il y a des défis techniques qui vont nécessiter plutôt de le garder pour les modes de transport qui sont les plus difficiles à décarboner via d'autres types de solutions.
Le 20 janvier 2023, par exemple, 5 personnes ont été blessées dans l'incendie d'un prototype de véhicule à hydrogène. Un accident survenu dans le laboratoire de l'Université de technologie Belfort-Montbéliard, entraînant une importante intervention des pompiers. Mais au-delà du côté sécuritaire, l'hydrogène présenterait aussi quelques effets paradoxaux.
Il faut produire l'hydrogène. Aujourd'hui, il est principalement produit à partir d'énergie fossile, donc d'un point de vue émission de CO2. Aujourd'hui, l'utilisation de l'hydrogène n'est pas vraiment vertueuse, n'est pas vraiment intéressante d'un point de vue climatique. Et puis, du coup, va être plus coûteux aussi, parce que pour produire à l'avenir de l'hydrogène à partir d'un processus qui s'appelle l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire qu'on va casser la molécule d'eau pour obtenir de l'hydrogène, eh bien ça va demander beaucoup d'électricité, plus que si jamais on utilise directement l'électricité dans un véhicule électrique avec une batterie. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une transformation énergétique à faire, on va perdre une partie de l'énergie. D'où, au final, le fait qu'il y a besoin de plus d'électricité sur l'ensemble de la chaîne pour faire rouler un véhicule à hydrogène. Soit on veut utiliser l'hydrogène dans un moteur à combustion interne, comme aujourd'hui on peut utiliser du pétrole dans nos moteurs de voiture, par exemple. Et là, ces moteurs-là sont assez inefficaces, d'où le fait qu'il faut, sur l'ensemble de la chaîne, plus d'électricité. C'est un peu l'un des principaux inconvénients de la filière hydrogène comparée à l'électrique.
Un moteur qui doit être adapté et qui consomme plus d'énergie que ce qui est présenté. Bon, voici le constat pour l'hydrogène. Alors, quelle autre solution ? Peut-être modifier le réservoir pour adapter son ancien moteur thermique. La crise actuelle des carburants a remis au goût du jour le bioéthanol, par exemple. Au 20 janvier 2023, l'écart de prix est de 76 centimes entre un litre de superéthanol et un litre de sans-plomb 95-10. À la pompe, le 85 se trouve autour d'1,20€ le litre, ce qui fait de lui le carburant le moins cher. Quelle production permet d'atteindre ce prix ? Élément de réponse avec Nicolas Kurtsoglou du Syndicat national des producteurs d'alcool agricole.
Alors aujourd'hui, donc c'est blé, betterave, maïs, c'est 0,6% de la surface agricole utile nette des coproduits qui sont utilisés pour faire du bioéthanol. Donc c'est une surface extrêmement faible pour produire beaucoup d'énergie, puisque en fait on produit 12 millions d'hectolitres de bioéthanol avec 0,6% de la surface agricole utile et on peut faire rouler plusieurs centaines de milliers de voitures. Donc là, on a de l'alcool et de l'eau et ensuite on fait une distillation et là on obtient de l'éthanol pur à 99,99%. Cet éthanol est envoyé dans des dépôts pétroliers et il est ajouté avec un peu d'essence pour faire soit du superéthanol E85 qui contient entre 60% et 85% d'éthanol, le reste c'est de l'essence, soit à 10% d'éthanol et 90% de sans-plomb pour faire du sans-plomb 95-E10. Le superéthanol E85 par rapport à l'essence sans-plomb 95-E10 divise par 2 les émissions de CO2. Le bioéthanol pur, on fait moins 77% de gaz à effet de serre. C'est bon pour la qualité de l'air, puisqu'on divise par 10 les émissions de particules fines par rapport à l'essence. Et puis surtout pour l'indépendance énergétique. On peut produire notre carburant et notre énergie chez nous plutôt que d'importer du gazole russe. La France est le numéro 1 du nucléaire et c'est un peu moins connu. Elle est le numéro 1 du bioéthanol aussi en Europe.
L'année 2022 a été une année particulière, avec une crise du carburant exceptionnelle. Un regain d'activité a donc été constaté du côté du bioéthanol, lui qui semblait un peu mis de côté à la fin des années 2010. La consommation du bioéthanol s'est envolée de 83% l'an dernier, soit plus de 854 millions de litres sur 12 mois.
Il y a 12 ans, il y avait à peine 1% des stations qui proposaient le 85. Voilà, aujourd'hui, on est à plus de 1 sur 3, donc plus de 33%. Les volumes de superéthanol E85 ont été multipliés par plus de 10. Effectivement, l'écart de prix entre le E85 et l'essence sans-plomb 95-10 est aussi tout à fait significatif et fait que les gens ont envie de l'utiliser. Et tout simplement, il faut un peu de temps pour que la notoriété d'un produit se fasse. Plus le produit est présent sur les totems des stations-service, plus on le voit, plus on a envie de l'utiliser, puisqu'il y a un écart de prix substantiel.
Alors, comment bénéficier de ce biocarburant ? Eh bien, soit en achetant un véhicule qui avance au bioéthanol, soit en faisant la conversion vers un boîtier flex fuel pour votre voiture actuelle et qui fait la conversion au niveau de votre réservoir.
Sur les voitures essence d'occasion, c'est toutes les voitures qui sont immatriculées depuis 2001 et après. Et ensuite, il faut qu'elles soient compatibles E10, évidemment. Et donc, effectivement, vous allez en fait sur info85.fr et vous avez la liste des 4 fabricants de boîtiers E85 et sur chacun, il y a la liste des garagistes qui sont les plus proches de votre domicile et donc vous pouvez ensuite demander un devis à chacun.
Mais est-ce un carburant d'avenir ? Dans un tableau comparatif permettant de choisir l'énergie de votre futur automobile propre, l'Automobile Magazine a classé chaque énergie selon ses avantages et ses inconvénients. Le bioéthanol est présenté comme la solution optimale pour être plus performant et plus propre afin de rouler à la fois en ville, sur route et sur autoroute.
On a fait des petits calculs en passant seulement de 0,6% à 1% de la surface agricole utile. On passe de 12 millions d'hectolitres à 18 millions d'hectolitres de bioéthanol. Et avec des voitures qui sont de plus en plus hybrides et hybrides rechargeables, donc qui consomment de moins en moins de litres de carburant liquide par 100 km, on peut faire tourner plus de 5 millions de voitures. Et donc c'est en gros 17% du parc automobile qui pourrait être abreuvé entre guillemets de superéthanol avec seulement 1% de la surface agricole utile. Il y a des solutions qui sont disponibles là et il y a un certain nombre d'industriels qui peuvent à la fois au niveau voiture, boîtier et distributeur de carburant proposer des solutions. Donc, sur les immatriculations de voitures neuves, on voit des fortes augmentations pour des voitures hybrides. Alors aujourd'hui, c'est plutôt des hybrides essence pure. On peut espérer que ce soit des hybrides essence avec un boîtier éthanol ou des hybrides flex 85 d'origine. Bah, ça permet déjà de décarboner extrêmement fortement. Nous-mêmes, on a commandé une étude à l'IFPEN pour analyser en analyse de cycle de vie les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit qu'une hybride rechargeable E85 est au même niveau et parfois un peu meilleure que la voiture électrique avec une batterie. Parce qu'aujourd'hui, la batterie a un impact CO2, une empreinte CO2.
Pourtant, tous les feux ne seraient pas au vert. Déjà, il faut signaler que l'E85, au même titre que les carburants classiques, va également subir les restrictions à venir sur les émissions de CO2. S'il est donc une solution, il n'y a rien d'optimal, selon le chercheur Aurélien Bigot.
La principale chose qui bloque, c'est le niveau de ressources disponibles de manière durable pour alimenter ces biocarburants. Si on voulait remplacer tout le pétrole par du biocarburant, soit il faudrait avoir une énorme partie des cultures qu'on utilise actuellement pour l'alimentation qui serait fléchée, disons, vers ces biocarburants, soit on n'a pas assez de ressources si on veut que ce soit produit à partir, disons, de déchets ou à partir de ressources qu'on ne peut pas valoriser par ailleurs. Donc c'est vraiment le principal. Pas le problème. Et actuellement, en termes de bilan carbone aussi, le fait d'avoir des biocarburants qui sont beaucoup en concurrence avec les usages alimentaires, donc par exemple pour le bioéthanol, ça va être produit beaucoup à partir de maïs, de blé, de betteraves, etc. Et bien en fait, ça va avoir des émissions quand même loin d'être négligeables. Et c'est pour ça qu'on doit réserver ce potentiel de biocarburant qui est assez limité, si on veut le produire à partir de déchets, plutôt vers des véhicules, vers des modes de transport pour lesquels il n'y a pas d'alternative suffisamment prête, suffisamment efficace. Sur les prochaines années ou à plus long terme. Comme par exemple les poids lourds, l'électrique devrait être davantage complété par de l'hydrogène, potentiellement par des biocarburants ou par du biogaz, qui va être un peu le même type de carburant que les biocarburants, donc à partir de biomasse aussi, mais ça va être sous forme gazeuse, donc là ça demande de changer les moteurs, c'est des moteurs qui consomment du gaz, mais du gaz biosourcé, entre guillemets, qu'on peut obtenir à partir de résidus de plantes par exemple.
Et oui, car d'autres carburants alternatifs sont expérimenté. Le gaz de pétrole liquéfié, ou GPL, qui est issu du pétrole, est constitué principalement de butane et de propane. Le gaz naturel véhicule, ou GNV, est quant à lui essentiellement composé de méthane. Ce dernier peut à la fois provenir de gaz naturel ou de biométhane, un gaz vert renouvelable. Mais ce n'est pas la solution idéale. Déjà, parce que les pompes se font plus rares. Mais aussi parce que leur composition ne présente pas une alternative très décarbonée. Autre solution évoquée, l'huile de friture. Alors attention, seuls les moteurs diesel peuvent la supporter. Le législateur conseille un mélange de 30% d'huile usagée pour 70% de diesel et surtout pour des moteurs anciens. Difficile donc de voir ce carburant comme un carburant d'avenir, même si le Sénat a donné son feu vert à la législation de l'huile de friture usagée comme carburant pour des véhicules appartenant à une entreprise ou une collectivité. McDonald's, par exemple, utilise sa propre huile pour ses camions de transport. Pour le chercheur Aurélien Bigot, le potentiel reste donc limité.
Le potentiel de production pour ces biocarburants qu'on appelle de seconde génération, donc à partir de déchets, typiquement l'huile de friture, au lieu de l'acheter, c'est très intéressant de la transformer en biocarburant et puis de pouvoir l'utiliser dans des véhicules. Mais on voit bien que l'huile de friture a un potentiel qui reste assez limité. On va pas se mettre à tous manger des frites à longueur de journée exprès pour avoir plus d'huile de friture pour alimenter nos voitures, nos camions, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel qui peut être utilisé, mais il sera forcément limité. Et à ce moment-là, bah, autant développer le potentiel qui existe, mais il ne faut pas compter dessus comme une solution de masse à l'avenir pour décarboner les transports.
Voilà donc pour ces quelques solutions alternatives. L'ADEME, agence de la transition énergétique, considère que l'électrification du parc automobile est un levier incontournable. Mais elle n'est pas suffisante pour que la transition soit pleinement efficace sur les plans environnementaux, sociaux et économiques. Il faut donc passer par un mix. Et pourquoi pas imaginer, selon les utilisations et les distances parcourues, passer sur une hybride électrique bioéthanol. Une hybride qui réduirait encore plus nos émissions, plus qu'une hybride avec essence ou juste un véhicule essence ou diesel. Pour découvrir plus d'éléments autour des nouvelles mobilités et des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien rendez-vous sur notre site internet et notre application. Quant à moi, je vous dis à bientôt.
La nuit sur 8FM, on passe des moments à écouter et découvrir des interviews que vous n'avez pas pu entendre. Bonne écoute.
Le Zoom Info.
Le CHU de Bordeaux a lancé hier une campagne de mécénat à destination des entreprises, associations, fondations, mais aussi particuliers. L'idée est de pouvoir concrétiser des actions pour assurer un meilleur confort des patients lors de leur hospitalisation. À l'image du projet de création de 2 salles de classe pour l'école de l'hôpital des enfants, en place depuis 1992, chaque année, ce sont plus de 1000 enfants du primaire au lycée qui sont pris en charge par 8 enseignants spécialisés de l'éducation nationale, essentiels pour Eva, 14 ans, atteinte d'une maladie génétique, qui est parfois hospitalisée plusieurs jours pour suivre son traitement.
À cause des hospitalisations, on perd de notre niveau scolaire. Et du coup, après, c'est compliqué de reprendre quand ça fait longtemps qu'on n'est pas à l'école, surtout pour les matières compliquées. Donc, je trouve ça cool qu'on puisse continuer d'apprendre, même à l'hôpital.
Mais dans des conditions pas toujours optimales, comme nous l'explique Laetitia Gilles-Mignon, professeure des écoles spécialisées.
On fait l'enseignement au chevet des enfants, c'est-à-dire qu'on va dans leur chambre et on fait classe individuellement. Quand ils vont assez bien, on peut les mettre un petit peu en salle à manger pour essayer de regrouper 2-3 enfants.
Difficile dans ces conditions d'être concentré.
En chambre, non, c'est sûr, surtout qu'ils ne la quittent pas beaucoup leur chambre. Ils sont assis sur leur lit, ils ont les sollicitations, leurs jouets, éventuellement des écrans. Parfois, ils sont en chambre double. Et quand ils sont en salle à manger, il y a beaucoup de passages.
La création de ces 2 salles de classe, une pouvant accueillir 30 élèves et l'autre 15, sera une véritable bouffée d'air frais pour l'apprentissage, mais aussi un plus pour accélérer la guérison de ces petits patients, selon Anne Dumas Lossinotte, cadre de santé en pédiatrie et l'une des porteuses du projet.
Un enfant qui ne va pas à l'école, c'est un enfant qui ne va pas bien. Du coup, pour nous, soignants, ça sera un plus que cet enfant dans la journée ait ses temps à l'école, non seulement parce qu'il va sortir de sa chambre, parce qu'il va pouvoir rencontrer d'autres enfants. Donc en fait, de sortir de ce lieu de vie, ce lieu de soins, ne peut que lui apporter du plus. S'évader, ça permet de mieux guérir.
Les travaux devraient débuter dans les prochains mois au sous-sol de l'hôpital des enfants. L'ouverture des 2 classes est fixée à la rentrée 2025.
Vous êtes au cœur de la nuit et on se retrouve demain sur 8FM pour passer un moment ensemble. À demain.
Have you thought about us? Looking up at the stars, oh, through the nebula dust, I will find you, my love.
FM.
With yours, I'm all out of fight.